Bonsoir mes frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni pour ces moments. J'aimerais que vous fassiez une lecture avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Comment le Seigneur a voulu enseigner des choses sérieuses. Vous savez, Dieu, il vous voit. Il sait ce soir qui c'est qui est là, qui c'est qui a soif, qui c'est qui est là par superstition, par habitude, par religiosité, par train-train. Mais Dieu sait qui sur la terre entière, il y a 7 milliards et quelques de personnes, il sait exactement vers qui il doit aller et comment il doit lui parler et ce qu'il veut faire. Nous le voyons bien dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Lisons, lorsque Jésus s'est présenté devant tous ces pharisiens, dans la synagogue, c'était à Nazareth. Et voilà ce que Jésus leur a dit. Regardez bien, Luc 4, verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Donc Jésus enseigne ces pharisiens qui sont là et regardez la réaction. Après, il parle de Naaman, mais on va s'occuper que de cette femme. Au verset 28, regardez bien. La réaction de ces religieux. Ils furent tous, pas la moitié, tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, regardez la suite, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Ils ont voulu tuer le Seigneur lorsque Jésus leur a dit, mais voyez, lorsque du temps d'Élie, il y a eu une grande famine sur toute la terre était embarquée dans cette épreuve terrible, mais ce n'est pas en Israël. Que Dieu a béni quelqu'un. C'est au Liban actuel. C'est la Syrie enseigne. Aujourd'hui, c'est le Liban, Sidon. C'est une cananéenne. Dieu n'a pas béni des religieux. Dieu a béni une étrangère. Et ils ont été furieux. Eux, embarqués dans la religion, embarqués dans leur rituel, ils n'ont pas accepté l'idée que Dieu pouvait bénir une étrangère. C'est ce qui s'est passé. Mais vous savez, ce texte, Jésus l'a utilisé, ils auraient dû être contents. Ils auraient dû dire, mais c'est vrai. Ils auraient dû dire, après tout, c'est vrai. Dieu, il bénit qui il veut. Vous avez vu ces gens qui ergotaient sur la parole, ils ont été furieux parce qu'ils n'ont pas compris cette histoire. Alors, on va y aller dans cette histoire. D'abord, on va lire un texte dans 1 Pierre pour introduire la réunion. Je voudrais que nous souvenions que nous devons vivre par la foi. Vous savez, est-ce que Dieu pourrait nous parler? Cette nuit, est-ce que Dieu pourrait donner un songe à chacun d'entre nous? Est-ce que Dieu pourrait envoyer un ange dans chaque chambre, dans votre chambre? Est-ce que Dieu pourrait le faire? Si Dieu disait, imaginons, un instant, si Dieu disait ce soir, bon, je vais envoyer un ange dans chaque chambre de chaque chrétien, ébranler les fondements et leur dire, voilà, je veux ci, je veux ça, je fais... Est-ce que Dieu pourrait le faire? Oui, il pourrait le faire. Il ne le fera pas. Parce qu'il a décidé que les hommes vivraient par la foi. La foi, c'est ce que Dieu dit. 1 Pierre, chapitre 1er. C'est un texte important qui vous explique un petit peu comment on doit se comporter dans l'épreuve. Qu'est-ce que fait l'épreuve dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? 1 Pierre, chapitre 1er, verset 5. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Vous soyez attristés, pour un temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? On a tous des épreuves, il faut que nous traversions des épreuves, c'est comme ça. Si vous n'acceptez pas les épreuves, autant que vous abandonnez de suite, vous abandonnerez un jour, c'est obligé. La vie est faite d'épreuves, dans tous les domaines. On peut en avoir dans la santé, on peut en avoir dans le foyer, on peut en avoir dans la famille, dans le travail, à l'église, partout, dans tous les domaines. Et la Bible dit que si on accepte l'épreuve par la foi, elle aura pour résultat la louange, l'honneur et la gloire. Et il y a beaucoup de gens, dès qu'ils sont dans l'épreuve, qu'est-ce que ça a pour résultat? Le doute, l'échec, la crainte, le murmure, l'apitoiement, la rétrogradation. Le résultat de l'épreuve devrait être l'honneur. Seigneur, je te fais confiance. Alors, nous allons retourner. Je vous dis ça pour que nous réagissions bien dans l'épreuve. On va aller voir dans cette femme. En Syrie, en Liban, au Liban d'aujourd'hui. Alors, c'est dans 1 Roi, au chapitre 17. Cette histoire merveilleuse que Jésus relate pour expliquer que Dieu sait qui il doit bénir. Vous le croyez que Dieu sait qui il doit bénir? Cette histoire, je vous assure, cette histoire, elle est merveilleuse. Et j'espère que vous n'allez pas être en colère parce que Dieu va bénir telle ou telle personne. Moi, j'espère que, de toute façon, qui que ce soit que Dieu bénirait, vous vous en réjouiriez. Serait-ce votre ennemi? Est-ce qu'on peut avoir des ennemis? Est-ce qu'on peut avoir des ennemis? Est-ce que c'est écrit dans la Bible, aimez vos ennemis? Bon, donc on peut avoir, ne soyons pas trop spirituels. Je sais qu'on veut faire des progrès, mais quand même, qu'on le veuille ou non, soyons honnêtes. Il y a des gens, parce qu'on est dans la lumière et parce que sont dans les ténèbres, ça crée de l'animosité, ça crée un combat. Ça crée des ténèbres. Donc, il y a un combat. C'est comme ça. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pas normal. Il dit pas, c'est pas normal que vous ayez des ennemis. Il dit, aimez vos ennemis. Mais c'est vrai qu'il faut les aimer. Et il faut prier pour eux. Donc, c'est religieux, à la place de dire, mais c'est vrai quand même, Dieu sait. Mais c'est vrai quand même. Pendant la famine, Dieu a béni une femme chez les Cananéens. Les Cananéens et les Juifs, c'était pas le grand amour. Mais vous savez, Dieu sait ce soir s'il peut bénir à Toulouse, s'il peut bénir en Espagne, s'il peut bénir au Liban, s'il peut bénir en Arabie Saoudite. Je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui a le comportement de cette femme, eh bien Dieu le bénira. Alléluia. Et ce qu'on a chanté, ce n'est pas du pipeau, c'est la vérité. Si quelqu'un a soif, vraiment soif, eh bien Dieu le bénira. Dieu parle de restauration, de rafraîchissement. Bon, on va quand même finir par lire l'histoire. 1 Roi chapitre 17, verset 8. Lisez bien cette histoire. Moi, je vous conseille de noter les points que je vais vous développer, les quatre points que je vais vous noter, de les noter pour dire à Dieu, mais je veux les vivre, ces points. Parce que moi, je veux que tu viennes vers moi, j'ai besoin de cette bénédiction. 1 Roi, chapitre 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva. Et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. » Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Vous voyez un petit peu la situation. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement... Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Personne ne sait l'intonation que Élie a utilisée, mais ça, c'est pas trop grave. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Cette histoire, elle est merveilleuse. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui ont la crainte de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, malgré le fait... qu'en Israël, il y avait beaucoup de tralala. Vous savez, ils n'ont jamais abandonné le culte, mais ils ont abandonné Dieu. Et cette femme, dans cette grande famine, qui aurait dû rapprocher les gens de Dieu, comme toutes les épreuves d'ailleurs, toutes les épreuves, même les bénédictions, tiens donc, qu'est-ce que c'est qui devrait nous rapprocher de Dieu? Les épreuves ou les bénédictions? Les deux. Quelqu'un d'intelligent, il dit, moi, l'épreuve doit me rapprocher de Dieu, parce que j'ai besoin de lui, mais la bénédiction, ça ne pourrait que nous approcher du Seigneur. Sérieusement, si vous aimez vraiment Dieu, s'il vous a béni, matériellement, physiquement, je ne sais rien, s'il vous a béni, vous ne croyez pas que ça devrait vous approcher de Dieu? Souvent, c'est l'inverse. Beaucoup de chrétiens en sont restés au pardon du péché. Ça a causé un tort dans le royaume de Dieu terrible. Les gens, on le voit lorsqu'ils se font baptiser, souvent, ils sont heureux, ils ont le pardon des péchés, mais ils ne sont pas allés à la conversion profonde, à la nouvelle naissance. Ils ont accepté Jésus comme sauveur, mais ils ne sont pas allés plus loin que le pardon des péchés. C'est Paul qui dit, quand il parle, il est devant le roi, comment il s'appelle, Félix ? Ou Festus ? Comment il s'appelle ? Devant certains, Agrippa. Il passe devant le roi Agrippa et il dit, tu sais, partout où je suis prêché, j'ai prêché la repentance, le pardon des péchés et l'héritage pour les sanctifier. Il a prêché le pardon et l'héritage. Vous comprenez la différence? C'est bien le pardon, mais l'héritage, c'est une bénédiction. Et c'est ce qu'on va voir en quelques minutes ce soir, l'importance, non pas que d'avoir le pardon des péchés, ce qui est extraordinaire, mais en plus de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que Dieu veut me donner? Quand Dieu parle de restaurer mon âme, moi je suis peiné de voir des millions de chrétiens sur la terre vont vous dire que le psaume 23, c'est le psaume préféré, et pourtant, quand ils disent « il restaure mon âme », ils ne le vivent pas. Nous avons un Dieu qui restaure l'âme. Et ce soir, c'est ce qu'il peut faire. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Ne dites pas. Mais Dieu le sait. Le Seigneur, il le sait si vous avez besoin de paix. Vous croyez que Dieu peut vous donner la paix? Vous croyez que si vous avez besoin de consolation, est-ce que ça peut arriver d'avoir besoin de consolation? Vous croyez que Dieu il est avare de sa consolation? Vous croyez que Dieu est avare de sa bénédiction? Non, c'est un Dieu qui peut vous rafraîchir. Mais comme on l'a vu dimanche, si ça nécessite une repentance, eh bien il faut se repentir. Si ça nécessite une reconversion, eh bien il faut se reconvertir. Car il est dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et il y a des chrétiens qui sont toujours tristes. Pour la simple et unique raison qu'ils se contentent du pardon des péchés. Vous allez me dire que c'est déjà pas mal. Oui, c'est sûr que c'est bien. Mais quand même, avec le Dieu qu'on a, c'est dommage qu'on n'en reste qu'au pardon des péchés. Alors, quelle attitude faut-il que j'ai pour obtenir cette bénédiction? Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jésus savait ce qu'il disait. Il était la sagesse personnifiée. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Il savait très bien que ces religieux allaient être furieux de voir que Dieu avait béni une arabe, une cananéenne, des ennemis jurés d'Israël. Ça n'a pas beaucoup changé en plus. Quelle histoire! Une femme qui se préparait à mourir. Vous avez vu, elle se préparait à mourir. Elle le dit, je ne sais pas. Elle l'a aussi, on ne sait pas l'intonation qu'elle a dit. Elle a dit à Élie, elle aurait pu lui dire autre chose. Parce que croyez-moi aujourd'hui, avec ce que cette femme était en train de traverser, vous lui direz, écoute, tu me prépares un petit gâteau. Il y en a beaucoup qui lui auraient dit, non mais tu vas bien. Il te faut te faire soigner. Franchement, vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, comment les femmes, les hommes auraient réagi, vous n'avez plus rien. Vous êtes en train de mourir, de savoir que vous allez mourir, vous n'avez plus rien. Aujourd'hui, on a des fois le frigo plein, le congélateur plein. Peut-être que dans le KGB, les étagères sont pleines, oui ou non? Peut-être, je ne sais pas, que vous avez de l'argent de côté, que vous pouvez acheter ce que vous voulez. Et on se plaint. Vous comprenez qu'on peut vite attrister le Saint-Esprit. Là, nous avons une femme, elle est en train de mourir. Elle tombe sur un pasteur qui va lui dire, écoute, prépare-moi un gâteau. Va le faire. Si Dieu vous demande quelque chose, pourquoi vous ne le faites pas? Et voilà l'explication. L'explication, elle est là. Et Dieu a voulu cette histoire. Jésus en reparle volontairement dans ce contexte d'une grande famine. Il y a eu une grande famine, mais toute la Bible enseigne, et peut-être que vous l'avez déjà vérifié, que dans la famine, quand quelqu'un a la crainte de Dieu, eh bien Dieu pourvoit. Eh bien si ça ne vous encourage pas, eh bien vous ne serez jamais encouragé. Parce que c'est écrit dans la Bible que quoi que ce soit que Dieu permette à cause du péché, et laissez-moi vous dire qu'en France, les choses s'aggraveront. Vous avez quand même remarqué qu'en France, avec ce qui s'est passé, avec ce qui se passe, avec les choix que l'on a faits, je ne parle pas des chrétiens, mais je parle au niveau du gouvernement, et le mariage homosexuel, et comment on a encensé Charlie Hebdo, et comment on a poussé à la roue pour que la Palestine redevienne une nation, toutes ces choses, ça vous dépasse un peu, mais je peux vous dire que ça ne plaît pas à Dieu. Et le résultat, c'est qu'on va voir de plus en plus de malédictions dans notre pays. Écoutez, c'est pas un scoop, hein. Je peux vous dire que c'est comme ça. Mais Dieu dit que ceux qui le cherchent, ils ne connaîtront pas la famine. Vous pouvez dire alléluia, parce que c'est quand même important. Donc cette histoire, elle est là, et Dieu va envoyer cet homme vers cette femme de la même manière que son esprit viendra vers nous. Vous le croyez ça ? Que sa grâce viendra vers nous et pourvoira parce que nous aurons fait exactement la même chose. Parce que aux mêmes causes, il y a les mêmes effets. Vous savez que Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous le savez ça. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et quand quelqu'un a soif, eh bien Dieu répond à cette soif. Quel est votre espoir ce soir ? Moi, je vous assure, moi, si vous saviez la peine que j'ai quand je vois certains chrétiens, ils n'ont plus d'espoir. Ils ont peur du lendemain, ils s'apitoient, ils imitent exactement les gens qu'ils côtoient. Les gens sont découragés, alors ils sont découragés, il pleut, oh c'est triste, il pleut aujourd'hui. Ce jour j'étais chez la dentiste, elle me dit, ça fait 3 jours qu'il pleut, moi j'en ai marre. Je dis, bon non, moi ça m'est égal. Et ça m'a permis de témoigner, je dis, mais moi je m'en fiche qu'il pleuve. Ah moi ça vous fait rien? Je dis, non, ça m'est égal. Moi je trouve que c'est bien même qu'il pleuve. Vraiment, regardez, je dis, mais oui, je suis chrétien. Je crois qu'il faut un peu d'eau quand même. C'est une bénédiction de l'eau. On est là, on est mais il y a une bêtise qui s'installe. Croyez-moi mes frères et sœurs, la pluie c'est une bénédiction. Vous le croyez ça que c'est une bénédiction ? On va pas faire la leçon à la météo. Bon, on va continuer. À tous les cas, beaucoup de chrétiens ont le Seigneur, mais ils sont comme cette veuve, ils ont juste un tout petit peu d'huile dans leur pot, dans leur vase. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais moi je crois qu'on a un Dieu qui est capable de donner davantage. Et il le fera. Demandez, et vous recevrez. Si vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Ou si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Et que vous demandez pour satisfaire vos passions, vos intérêts personnels. Mais moi je vous dis que quiconque demande, reçoit. Et cette femme, elle est le prototype de ceux qui véritablement, malgré leurs difficultés, eh bien, ont été capables de s'attendre à Dieu parce qu'elle craignait Dieu. On le voit dans les peu de mots qu'elle utilise. Eh bien, Dieu va l'exaucer. Dieu sait quand il doit intervenir. La vie spirituelle, ça doit être une bénédiction. C'est vrai qu'on a des fardeaux. Est-ce qu'on a des fardeaux ? Mais on dépose les fardeaux. Mais la vie ne doit pas être un fardeau. Est-ce que vous faites la différence ? Entre les fardeaux que l'on porte, que l'on doit porter, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. On peut en avoir 4, 5, 10, 15. Eh bien, on se décharge 15 fois, 50 fois dans le fardeau des âmes. Est-ce qu'on peut avoir le fardeau des âmes ? Est-ce qu'on peut l'avoir ? Que des âmes, Seigneur, moi je voudrais que des gens soient sauvés. Est-ce qu'on peut avoir le fardeau des âmes ? Bon, eh bien, ça peut venir combien de fois dans la journée le fardeau des âmes ? Combien de fois ça peut venir ? Tiens, aidez-moi, stagiaire, là. Combien ça peut venir ? Combien ? Plein. Eh bien, plein de fois, on se décharge. Ça vient 50 fois. Est-ce qu'on peut avoir 30 fois le fardeau d'une personne dans la journée ? Est-ce que ça peut arriver ? Répondez-moi. Mais bien sûr. Eh bien, 31 fois, Seigneur, je te prie pour M. Dupont. Ça fait 30. Eh bien, ça peut arriver. C'est un combat. Il y a des combats. Et si on ne sait pas les gérer, ces combats, eh bien, la vie devient un fardeau. Et ce n'est pas ça, la volonté de Dieu. Croyez-moi, la volonté de Dieu, ce n'est pas ça. Donc, on voit Dieu qui intervient dans une situation. Et de la même manière, il veut intervenir dans votre vie. Et je ne voudrais pas que vous terminiez votre vie. Vous savez, moi souvent, quand je suis rentré dans le ministère, le pasteur qui m'a formé m'a demandé de m'occuper des personnes âgées. Alors je visitais des personnes âgées. Toute la semaine, je visitais des personnes âgées. Mais j'ai été peiné de voir que ces personnes âgées, qui à l'époque avaient 80, 85 ans, qui marchaient avec lui depuis 30, 40 ans, elles étaient toujours négatives. Elle me dit, c'est comme ça, on s'inquiète tout le temps. C'est un pli. Elle s'inquiétait tout le temps. Tout le temps. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Et pourtant, le premier ordre Vous aimez les ordres? Bon, c'est bien. C'est bien si vous aimez les ordres. C'est très bien. Le premier ordre que Dieu, parce que c'est selon la parole d'Élie, mais à la fin, il dit c'est la parole de l'Éternel. Regardez le premier ordre. On va faire, il y a quatre conseils. Et laissez-moi vous dire que si vous vivez ces quatre conseils, les bénédictions seront les mêmes. 1 Roi, chapitre 17, verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Voilà le premier conseil. C'est un conseil. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est un ordre. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est Dieu qui parle. C'est pas, vous savez, dans le monde, on est là, t'inquiète pas. Mais dans le monde, ça fait, on tape sur l'épaule des gens, prends courage. Les gens, ils parlent, c'est par habitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme dire bonjour, ça va. Mais en vérité, les gens, ils s'en fichent. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas bien, mais franchement, les gens, ils n'en ont rien à faire. Hein. Mais quand Dieu dit ne crains pas, c'est un ordre. Et moi, je suis effaré de voir la quantité de chrétiens qui ont peur du lendemain, alors que Jésus a pris le soin de nous dire, mais n'ayez pas peur du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Il le dit. Et si vous voulez une vie bénie, il ne vous faut pas avoir peur du lendemain. Cette histoire, elle est là pour nous prouver que quel que soit ce qui se passera, si vous vivez comme cette femme a pu le vivre, eh bien, Dieu interviendra. Ne craignez pas. Vous voulez être béni? Eh bien, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas dire, non, je ne crains pas. Pas de l'autosuggestion, vous voyez? Non, je ne crains pas, je ne crains pas. Moi, j'ai appris la méthode Coué. Vous savez la méthode Coué? Je ne crains pas, je ne crains pas, je ne crains pas. J'ai pas mal aux dents. Oui, ça marche. Quand on a pas mal, ça marche. Mais quand on a mal, ça ne marche pas. La méthode Coué, c'est ridicule. Mais quand Dieu dit ne crains pas, dans mon cœur, je prends la décision de ne pas craindre. Seigneur, si tu le dis, je vais le faire. C'est la première chose. Moi, je vous assure, je suis peiné. C'est encore hier, je discutais avec une chrétienne qui a peur du lendemain. Elle a peur, mais qu'est-ce qui va arriver? Je dis, mais il va arriver plein de choses graves. Mais Dieu gardera ses enfants. Il l'a dit, il n'a pas arrêté de le dire. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens vivent leur vie spirituelle comme un véritable fardeau. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit si en même temps on est rempli de crainte. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez jamais avoir la plénitude du Saint-Esprit si vous êtes tout le temps en train de craindre. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Et si je perds mon boulot? Et s'il n'y a pas ceci? Et si ma boîte, elle ferme? Mais vous croyez que Dieu, il n'est pas puissant pour pourvoir? Franchement, si vous ne le croyez pas, vous ne pourrez jamais avoir la vie de l'Esprit. Et Paul dit à Timothée, qui a dû être affligé par peut-être des anciens dans l'Église, il dit, mais ne, Dieu t'a pas donné un esprit de timidité. Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parce que la vie est faite de combats, et ces combats peuvent nous amener à nous apitoyer. Et cette huile, cette fameuse huile qui ne va pas manquer, elle commence à venir lorsque l'homme décide de ne pas craindre. Alors, la crainte, il y a des commandements, moi j'en ai souvent parlé. Je pense que c'est certainement le sujet que j'ai peut-être le plus abordé depuis mon pastorat. Mais on va le lire parce que c'est garder un roi, mais c'est un ordre. Regardez dans Ésaïe 54. Il vous faut apprendre par cœur ces versets. Il vous faut vraiment les mémoriser. Le Saint-Esprit vous les rappellera. Moi, c'est un verset qui me revient à l'esprit tout le temps. Tout le temps, ce verset me revient à l'esprit. Je le connais par cœur, Ésaïe 54, verset 14. C'est un commandement. Jésus a dit, faites des disciples et instruisez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. La vie, ce n'est pas aller à l'église, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est à l'église, j'apprends ce que Dieu veut m'apprendre et je le vis. Bannis l'inquiétude. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Et un petit peu avant, dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, c'est au verset 2, c'est un autre sentiment qu'il faut bannir dans notre cœur, une autre émotion qui vient régulièrement dans notre cœur. On peut avoir de l'inquiétude, on peut avoir de la frayeur, et on peut avoir du chagrin. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 2. Qu'est-ce que Dieu dit? Si on ne vit pas ces choses, on n'avancera pas, c'est sûr. Ecclésiaste 12, verset 2, « Bannis de ton cœur le chagrin ». Et éloigne le mal de ton corps. voyez, bannis de ton cœur le chagrin. On a du chagrin. On a du chagrin. Il n'est pas dit, c'est pas normal que vous ayez du chagrin. Dieu dit pas, je comprends pas, c'est pas normal. Non, il dit, le chagrin, vous l'avez, bannissez-le, expulsez-le de votre cœur. Quand on est dans le deuil, on a du chagrin. On peut avoir du chagrin. Quand on est dans le deuil, allez, aidez-moi. Vous avez déjà perdu quelqu'un que vous aimiez? Est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un que vous aimiez? Oui? Bon. Combien de temps vous avez été dans le deuil? À peu près? Combien? Quelques semaines? Bon, ça dépend de la relation qu'on avait avec la personne. Moi, quand j'ai perdu ma sœur jumelle, franchement, ça a été long. On peut être dans le deuil un mois, quelques semaines, un an. Est-ce que c'est normal d'être dans le deuil un an? Est-ce que c'est normal? Mais bien sûr que c'est normal d'être dans le deuil pendant une année. Mais vous me diriez, voilà, je vous dirais, écoutez, j'ai perdu mon père il y a 20 ans et je suis toujours dans le deuil. Vous me diriez, bon, ça commence à... Vous ne trouvez pas que ça... Il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Que j'ai toujours un petit peu de peine quand j'y repense, c'est une chose. Mais au bout de 20 ans, moi je pense qu'il y a un problème qui s'est passé. C'est pour ça que Dieu, il sait quand il dit, mais bannis de ton cœur le chagrin, bannis l'inquiétude, bannis la frayeur. C'est un commandement. Des fois, on dit, on est les amis du Seigneur, mais ce n'est pas vrai. Parce que Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce n'est pas vrai, ça. On dit, vous êtes les amis du Seigneur parce que vous venez à l'église. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est les amis du Seigneur si on fait ce qu'il nous demande. Et la première chose, mais mes frères et sœurs, cette histoire, elle est sérieuse. Si Jésus, il fait allusion, c'est son premier discours, Seigneur, quand il est baptisé du Saint-Esprit. Regarderez. C'est son premier discours. Et il fait allusion à cette femme pour dire, mais moi je vous dis que quelle que soit l'épreuve que vous traverserez, quelle que soit la famine qu'un pays peut traverser, moi je bénis ceux qui ont la crainte de mon nom. Il y a de ne pas craindre, et puis il y a la véritable crainte, parce que cette femme, elle craint Dieu. Donc, on revient à notre histoire. Donc, c'est une loi, il faut l'accepter. Vous avez dit, oui, mais si tu étais à ma place, il y en a des gens qui disent, si monsieur Gauss, si vous étiez à ma place, vous ne parleriez pas pareil. Mais ce n'est pas vrai. Parce que je pense qu'on traverse à peu près tous les mêmes épreuves. Et je peux vous dire que j'ai traversé des situations où j'aurais pu craindre. Croyez-moi. Je me souviens une fois, on m'avait demandé d'aller. Je vous le dis parce que j'étais tout seul, j'étais en Polynésie. Et on m'avait demandé d'aller dans une île et on pouvait y aller qu'en bateau. Et le pasteur qui était parti avec moi, je pense qu'il avait un problème. Et on. Plein milieu de la mer, tout d'un coup, il avait un petit bateau, et la tempête s'est levée, mais vraiment la tempête s'est levée. Et il me dit, j'ai dit, il y a des gilets de sauvetage. Oh, mais dis non, moi, je n'en prends jamais. Mais par contre, il y a un problème, le bateau, quand il prend l'eau, si le moteur s'arrête à cause des vagues, tout ça, il y a un trou, et le bateau se remplit. Et en plus, j'avais lu que dans la baie de Taha, et entre Rayatea et Taha, c'est la baie où il y a le plus de requins au monde. Et les vagues, ça me brûle, parce que l'eau de mer, ça brûle. Je vous assure que ça brûle. Et j'étais là, et j'ai dit, bon, mais écoute, Seigneur, si tu as décidé de me reprendre comme ça, c'est bien. Et puis tout d'un coup, paf, le bateau s'est arrêté. En panne. Il me dit, bon, on est vraiment mal barré, il me dit. Eh bien, je dis, écoute. Et moi, j'étais là, je me rappelle, et bien, j'ai dit, je refuse de m'inquiéter. Mais je vous assure, c'est la vérité. J'ai dit, je refuse de m'inquiéter. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux parce que tellement l'eau me brûlait les yeux. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a réussi à remettre le moteur en route parce que l'eau commençait à monter. Mais moi, j'ai dit, je refuse de m'inquiéter. J'ai dit, Seigneur, si tu as décidé de me reprendre comme ça, écoute, c'est pas grave. C'est comme un mauvais moment à passer. Ah, mais je pense, il faisait nuit, c'était vraiment triste. Mais j'ai compris qu'on pouvait lui faire confiance. Pourquoi Dieu a permis que je vive ça. Est-ce que Dieu aurait pu éviter ça? Dieu aurait pu l'éviter. Je l'ai vécu. Est-ce que Dieu m'a éprouvé? J'en sais rien. Ça m'est égal. Mais je veux ne pas m'inquiéter. Parce que je crois que Dieu tient nos vies dans sa main. Vous vous rendez compte, la délicatesse qu'il a dit, mais même un oiseau, un passereau, vous avez vu, des moineaux, il y en a partout à Toulouse. Même un passereau, vous connaissez les passereaux, les petits moineaux, ça n'a aucune valeur. Enfin, comparé à un homme, ça n'a aucune valeur, un petit passereau, un petit moineau. Et bien Dieu dit, même pas un poisson, un moineau ne tombe sans que mon père le veuille. Il l'a dit ou il l'a pas dit? C'était une blague ou c'est la vérité? C'est la vérité. Nos vies sont dans sa main. Et si vous le croyez, vous allez rentrer chez vous et dire, je refuse de craindre. Parce que Seigneur, je veux respecter tes commandements. C'est là qu'on reconnaît un disciple. Faites des disciples. Faites des disciples. Et instruisez-les à observer tout ce que j'ai prescrit. Deuxième conseil, rentre. Vous avez vu? Rentre. L'importance de savoir rentrer et de chercher Dieu. Le culte personnel. Le culte personnel. Qu'est-ce que vous faites du culte personnel? Qu'est-ce que vous en faites? Vous savez, un soir, je me rappelle, on discutait avec des jeunes, ils sont restés jusqu'à 11 heures. Et je leur ai dit, mais comment vous faites votre culte le matin? Ah, mais dis-moi, nous, on ne le fait pas. On se couche tard, on regarde Facebook, on ne le fait plus. On n'a plus le temps, on se contente des réunions. Mes frères et sœurs, moi je passe bien les réunions. Mais je crois que si Jésus a dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, chaque jour je dois m'appliquer à rentrer dans ma chambre. C'est écrit ça quelque part, entre dans ta chambre, ferme ta porte. C'est écrit où? C'est écrit où ça, Michael? Combien? Non, Matthieu, c'est pas si précis. Matthieu 6, Dieu dit, mais quand tu pries? D'ailleurs, il dit, en plus, il le présente comme un secret. Quand tu pries, lisez-le avec moi. Mes frères et sœurs, si vous ne faites pas votre culte personnel, vous allez vous contenter de la prédication du pasteur? Et si le pasteur, il n'est pas inspiré? Est-ce que ça peut arriver que le pasteur ne soit pas inspiré? Oui? Vous vous rendez compte? Alors, venez pas à un culte? Le culte où vous venez, le pasteur n'est pas inspiré, ça fait que pendant 15 jours, vous n'avez pas une réunion qui va vous fortifier. Et ça arrive, ça. Moi, ça m'est arrivé dans les églises d'entendre une prédication qui n'avait ni queue ni tête. Et ça m'a fait de la peine. Moi, je crois. Et regardez, il y a quand même cette dimension. La prière, c'est pas je récite des paroles, bénis mon père, bénis ma mère, bénis mes enfants, bénis les voisins. Non, ça, on peut le faire, mais d'une manière vraie. Et quand Jésus en parle, Matthieu 6, il en parle comme un secret en plus. Il parle d'un lieu secret, mais je pense que c'en est un. Des fois, on cherche des secrets, mais t'as rien d'un. Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quatre fois dans ce texte, vous verrez, il est parlé du lieu secret. Rentre, le Dieu. Nous on aurait dit, écoute, t'as pas d'huile, ben, cours chez les voisins, va en chercher chez les autres, oui ou non? Franchement, non, Dieu ne dit pas va chez les voisins, il dit rentre. Et mes frères et sœurs, il faut être sérieux. Si Jésus dit, mais oui, cette femme à Canaan, elle a été bénie. Mes frères et sœurs, que ce soit à Canaan, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Toulouse, à New York, à Bercy, n'importe où. S'il y a quelqu'un qui adopte la même attitude malgré la douleur, l'épreuve, parce que quand même elle se préparait à mourir la femme, elle était en train de se programmer à mourir. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne se préparent pas à mourir physiquement, mais spirituellement ils sont dans le même cas de figure, ils sont là, ben on verra bien. Non, on ne verra pas bien. On va laisser cette foi s'extérioriser et faire de nouvelles expériences avec Dieu. Le troisième conseil, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça c'est un gros problème. Parce que justement, ça peut être très mal expliqué, on en parlait tout à l'heure à l'introduction de la prière. Jusqu'où on peut encourager les gens, jusqu'où ce n'est pas la pression qu'on met sur eux. Prépare-moi d'abord un gâteau. Elle a rien. Et le pasteur lui dit, ah, écoute, avec le peu de farine qui te reste, tu me fais un gâteau à moi. Prépare-moi d'abord. Dites-moi, est-ce que Dieu est en premier dans votre vie? Parce que ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Hein. Prépare-moi d'abord. Ça fait partie des lois du royaume de Dieu. Jésus l'a enseigné. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cette femme, elle aurait pu dire, écoute, mon pauvre élite, il faut te faire soigner. Tu radotes ou quoi? Franchement, moi, je vous assure, hein, si Dieu vous disait ce soir, et s'il vous le dit au travers de mon ministère, mets-moi en premier. Vous allez me dire, mais M. Gauche, je rate aucun culte. C'est pas ça que je vous dis. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que parce que le matin, ils prient 5 minutes en premier, parce qu'ils vont à tous les cultes, ils ont mis Dieu en premier. C'est pas parce que la première chose que je fais le matin, c'est de prier ou de lire ma Bible, que Dieu est en premier. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, imaginez, la première heure du jour, je la passe à lire ma Bible et à prier. Je me lève, moi, même avant le café. Je lis et je prie. Café, un second. Et que tout le reste de la journée, je le passe à penser au monde, à aimer le monde. Est-ce que Dieu est en premier dans ma vie? Non. Mais c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de chrétiens, ils s'imaginent que parce que la première heure du jour, ou le premier quart d'heure, je ne sais rien, ils ont, même avant le café, je vous dis, moi j'ai entendu quelques mois, même avant de boire le café. Bon, écoutez, bon, moi, moi je prends mon petit café le matin. C'est... En premier, ça ne veut pas dire que c'est la première des premières des premières choses. En premier, ça veut dire que toute la journée, Dieu est en premier dans votre vie. C'est ça que ça veut dire. Que vous soyez au travail, que vous soyez à la piscine, que vous soyez en train de faire du jogging, que vous soyez en train de bosser, que vous soyez en train de vous détendre, n'importe quoi. Dieu est en premier dans ma vie. Prépare-moi d'abord. Et cette femme, elle l'a fait. Cette femme, elle avait la crainte de Dieu. Et regardez avec moi, je vois que le retourne, mais j'aurais aimé voir d'autres choses avec vous. Regardez avec moi dans le psaume. Moi, ce sont des versets que j'ai appris par cœur. Tout à l'heure, on parlait tout à l'heure d'apprendre des versets par cœur. Parce que quand même, on a envie d'être béni. Est-ce qu'on a envie d'être béni? En plus, c'est pas malsain. Parce que c'est quand même la volonté de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui bénit? Est-ce que Dieu peut bénir un homme tous les jours de sa vie, malgré les épreuves? Mais bien sûr, c'est pas malsain. Ne jouons pas les hypocrites. Dieu bénit. La preuve, c'est que cette femme à Canaan, qui était une ennemie d'Israël, elle a été bénie. Naaman le Syrien, c'est pire encore. C'est pire encore, Naaman le Syrien. Parce que Naaman le Syrien, il a été béni. Alors c'est pour ça qu'ils étaient vraiment furieux. Naaman, c'était un ennemi d'Israël qui avait attaqué Israël. Et en plus, vous imaginez, l'armée de Syrie a attaqué Israël et Israël a été battu par l'armée de Syrie. Et ce général, en plus, il a été béni par Dieu. Ah, je comprends pourquoi les pharisiens, ils étaient furieux. Mais mes frères et sœurs, que vous soyez général ou que vous soyez simple troufion, ce n'est pas important. Dieu bénit, il ne bénit pas le général, il a béni l'homme. Dieu, il bénit l'homme, il bénit la femme. Il ne bénit pas parce que vous avez un titre ou une fonction. Dieu, il bénit l'être humain. Et quand Dieu vous dit quelque chose, faites-le. Regardez, alors on va avancer quand même. Regardez, c'est dans le psaume 33. Dans le psaume 33, au verset 19, c'est important ça. C'est important. Vous savez, Dieu, il est le débiteur de personne. Tout lui appartient dans le ciel et sur la terre. Vous le croyez ça, que tout appartient à Dieu? Ouais, tout. Donc il peut donner tout ce qu'il veut à qui il veut. Psaume 33, verset 18 et 19. Moi je vous assure, ce sont des psaumes que moi je vous encourage à apprendre. Parce que cette femme, je sais, elle avait peut-être pas le livre des psaumes, mais elle l'avait dans son cœur. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Psaume 37, verset 19 aussi. Verset 18. C'est des psaumes, c'est des versets, ça, mais on devrait les... Moi, je vous assure, hein. Moi, je bénis le Dieu le jour où le pasteur qui m'a formé m'a dit, mais apprends des versets par cœur. Parce que croyez-moi, c'est des versets qui vous encouragent à vous tenir à carreau, comme on dit. Psaume 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais vous le croyez ça ou c'est de la poésie? Puisque les psaumes, c'est des cantiques. C'est de la poésie ou c'est la vérité? Mes frères et sœurs, Dieu a voulu cette histoire. Elle pourrait ne pas être dans la Bible, cette histoire, oui ou non? Ça a été écrit pour notre instruction, pour qu'on apprenne justement à ne pas craindre, pour qu'on apprenne à bichonner notre culte personnel. Rentre! C'est dans ta maison que ça va se passer. C'est dans ta chambre que ça va se passer. C'est dans ce moment d'intimité, dans le lieu secret. Dieu te voit. Oh, je n'ai pas prié, oh, j'en ai marre, je suis crevé, j'ai pas mis de prière en ce moment. Mais moi, je n'ai pas mis de prière non plus. Vous croyez que moi, je prie tous les jours, j'ai mis de prier? Je prie parce que Dieu a pas dit prie quand tu as envie, prie quand tu es de mon poil. Dieu a dit prie, prie, prie chaque jour. C'est écrit ou c'est pas écrit? Mais si vous voulez pas, il ne va pas vous forcer. Mais mes frères et sœurs, si Dieu te dit ne crains pas, rentre et prépare-moi d'abord. Mes frères et sœurs, mais faites le test. Faites le test. Puisque Dieu nous autorise à le mettre à l'épreuve, à condition qu'on obéisse. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Mais ça ne veut pas dire, je vais mettre Dieu à l'épreuve, je reste dans mon coin. Seigneur, tu as dit, non, c'est pas ça qui est écrit. Obéissez. En obéissant, vous mettez Dieu à l'épreuve. Et vous vérifierez si ce n'est pas vrai. Vous avez lu avec moi, psaume 33, 19, psaume 37, 19, il n'y a rien de plus facile à apprendre. Mais mes frères et sœurs, Dieu dit que pendant la famine, celui qui est intègre et celui qui vit ces choses, Dieu pourvoira. Et vous avez lu la fin, hein? Comme il est dit, pendant longtemps, cette femme, elle a eu ce qu'il fallait, mais vous n'avez pas envie de faire une expérience? Vous voulez vous traîner toute votre vie comme ces mémés qui me disaient quand j'étais stagiaire à Albi, ben oui, on s'inquiète, on sait qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais on s'inquiète, c'est comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez, vous verrez plus tard. Il y a des gens qui vous encouragent. Hein. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit quelque chose, même si c'est qu'un mot, c'est sérieux. Si Dieu vous dit ce soir juste, ne crains pas, mais contentez-vous de ces trois mots. Soyez conscient que Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Et c'est vrai qu'il nous éprouve. Et je termine avec cette pensée qui me vient à l'esprit. Quand il y avait toute cette foule qui était là, ça faisait trois jours qu'ils n'avaient pas à manger. Et puis Jésus se tourne vers Philippe et il dit à Philippe, donnez-leur vous-même à manger. Et Philippe, il est écrit, il disait cela pour l'éprouver. Car il savait ce qu'il allait faire. Il l'a éprouvé, il y avait 12 pasteurs, paf, il s'est tourné vers Philippe. Pourquoi Philippe? Eh bien, parce que c'était Philippe, ça aurait pu être Pierre, ça aurait pu être Barthélemy. Paf, donnez-leur vous-même à manger. Et bon, et André a pris le relais, a dit oui, mais il y a ici un garçon là qui a un pique-nique, etc. Il disait cela pour l'éprouver. Mais ce que vous avez entendu ce soir, ça va peut-être vous éprouver, mais attends, mais le culte personnel, mettre Dieu en premier, vraiment le mettre en premier, rentrer, c'est vrai, dans ma maison, c'est important. Moi, je ne sais pas, l'intimité avec Dieu, pour moi, c'est quelque chose d'archi important. Ça se passera exactement pareil. Ne dites pas, on verra si ça marche, ne parlez pas comme ça. Ça marchera, c'est obligé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et si Dieu dit que dans les grandes famines, il pourvoit, laissez-moi vous dire qu'il n'y a personne au ciel qui pourra dire « j'étais dans la galère parce que tu n'as pas pourvu ». Non, écoutez-moi, si on vit ces choses, Dieu pourvoira. Vous entendez mes frères et sœurs? Oui, Dieu y bénit. Il bénit au Liban, il bénit partout. À Toulouse, il bénit aussi. Vous avez envie que Dieu vous bénisse? Est-ce que vous avez envie que Dieu vous bénisse? Parce que, comme je viens de le dire, Dieu n'est le débiteur de personne. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Et s'il veut vous donner de l'huile en abondance, et il veut vous donner de l'huile en abondance, pareil, s'il veut. Vous croyez que Dieu veut que vous soyez rempli du Saint-Esprit? Mais si vous vivez dans la crainte, c'est comme si vous remplissiez un vase percé. Je ne comprends pas, je ne suis jamais rempli du Saint-Esprit, ça frise ce que Paul dit aux Galates, mais on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous ne rempliriez pas, vous, un vase percé. Si vous vivez dans la crainte, votre vase, il est percé. Eh bien, réglez cette affaire. Dieu va vous aider. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il vous dit « ne crains pas », c'est que vous pouvez ne pas craindre. Vous voyez Dieu en train de vous demander quelque chose. Si Dieu vous disait « allez, va me chercher la lune », est-ce qu'on pourrait aller chercher la lune? Tiens donc. Est-ce qu'on pourrait aller chercher la lune? Mais monsieur, on aime ça, sa femme. Est-ce qu'on pourrait aller chercher la lune? Est-ce qu'on peut? Non, on ne peut pas. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Et moi, je veux ne pas vivre dans la crainte. Je veux que Dieu soit en premier. Parce que vous savez, on va vivre... Moi, je pense qu'en France, il va y avoir des temps difficiles. Vous savez, cet avion-là qui s'est scratché, vous avez vu, c'est pathétique, je veux dire. Pourquoi ça s'est passé en France? Parce que quand même, vous êtes d'accord, qui dira qu'une chose arrive dans une ville sans que Dieu ne l'ait permis? Alors là, on entame un sujet un peu compliqué, mais une chose est sûre, mes frères et sœurs, la France connaîtra un temps de jugement. Parce que vraiment, on est fort, croyez-moi, pour se mettre contre Dieu. Mais les chrétiens qui vivront ce que l'on vient de partager ne connaîtront pas la famine. Ils connaîtront l'abondance de la grâce de Dieu. Alors répondons à cette prédication, fermons les yeux quelques instants, et répondons sincèrement, simplement, répondez-lui, dites au Seigneur, tu vois, moi j'en ai marre de ne pas faire mon culte personnel, Facebook, ça m'empêche d'avoir mon culte, il y a ça, non. Je veux que dans ma maison, il se passe quelque chose. Je le veux. Eh bien, il se passera. Je veux ne plus craindre. Et je veux te mettre en premier, Seigneur, vraiment. Je veux te mettre en premier. Cette femme, elle a obéi. Le quatrième point, je n'en ai pas parlé, mais c'est l'obéissance. Vous savez ce que Dieu a dit à Samuel, à Saül un jour? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est pire que la divination. Notre Père, notre Dieu, tu as enseigné ces choses pour nous montrer que chacun, chacune qui voudra vivre ces choses ne connaîtra pas la famine. Non, Seigneur, nous ne sommes pas furieux parce que tu vas bénir, tu bénirais un arabe, un musulman qui se tourne vers toi, au contraire. Nous sommes heureux de savoir que tu connais le cœur de tous les hommes et que tu peux bénir nos ennemis s'ils se mettent à te chercher. Tu peux bénir n'importe qui sur la terre qui se mettra à crier, à obéir. Merci pour tous ceux qui sont bénis. Mais nous aussi, nous voulons entrer dans cette bénédiction. Et tu vois, ceux qui au milieu de nous avaient besoin ce soir d'avoir cette délivrance, cette guérison, cette libération par rapport à la crainte, par rapport au culte personnel, par rapport à l'importance de se retrouver à te donner en premier leur vie et à t'obéir, Seigneur, que ces choses soient manifestées dans nos vies. Nous le demandons, Seigneur, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen.